Merci beaucoup, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Okapi, merci aux journalistes à Kinshasa et à Goma d'être avec nous ce matin pour la conférence de presse des Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons deux invités, José María Aranaz, en charge du Bureau des droits de l'homme, qui nous présentera le rapport mensuel de son bureau, et nous attendons le docteur Ernest Dabiré, chef de l'équipe des urgences en santé de l'OMS, qui ne devrait pas tarder, et qui répondra à vos questions sur l'épidémie de choléra en RDC. Je vais vous commencer par vous parler du sort des enfants en RDC avec une nouvelle pour une fois positive. En effet, cette semaine, 300 enfants ont retrouvé la liberté dans Kasaï. C'est grâce à une opération de sensibilisation auprès des miliciens Kwame Nansapu, menée par la MONUSCO, le Bureau des droits de l'homme et plusieurs partenaires dont l'UNICEF et des ONG locales. 290 enfants, dont 59 fillettes et petites filles, ont été séparés de la milice Kwame Nansapu et remis aux ONG partenaires. Cette sensibilisation a été conduite à Nganza, commune de Kananga. Et dans le souci de soulager les souffrances de ces enfants et de soutenir les structures qui les accueillent, la MONUSCO a offert des centaines de matelas aux centres de transit et d'orientation basés à Kananga. Ces centres accueillent et prennent quotidiennement soin des enfants durant le processus de recherche et de réunification avec leurs familles. Jamais il n'y a eu une telle proportion d'enfants dans les groupes armés en RDC. Et encore une fois, la MONUSCO rappelle que le recrutement d'enfants est un crime de guerre et appelle les milices et les groupes armés à libérer les enfants et à cesser d'en recruter. À Beni, ainsi, 5 membres du groupe ADF ont été condamnés pour avoir recruté et utilisé des enfants par la Cour militaire opérationnelle. Ces condamnations représentent une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violations graves des droits de l'enfant. Dans les Kasaï et dans l'Est du pays, les enfants sont encore et toujours, hélas, victimes de violations graves de leurs droits fondamentaux. Dans la seule période du 4 au 8 septembre dernier, 94 enfants, 72 garçons et 22 filles, ont été victimes de violences, que ce soit des violences sexuelles, des enlèvements, des recrutements, utilisation comme combattants, comme porteurs, comme cuisiniers ou comme objets sexuels. Je vais maintenant passer la parole à Goma, au colonel Hag, pour faire un point sur la situation sécuritaire. Colonel, on vous écoute.
Merci madame. Et bonjour à tous. Les principales informations de la semaine concernent la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru, Lubero, Butembo et Beni, au nord Kivu, où les attaques récurrentes des groupes armés affectent la vie des habitants et toute l'économie locale. Plusieurs attaques persistantes ont été menées par des éléments présumés, Mai Mai Natura, contre les positions de nos partenaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, dans les régions de Lubero, Butembo, Rutshuru et Beni. Regret de violence, dont plusieurs enlèvements commis par les éléments présumés FDLR Foka, a été constaté à Mutanda, Walenda, dans la région de Kiwanja. Ces violences ont entraîné des mouvements de population vers d'autres localités. Ainsi, dans le territoire de Rutshuru, près de 120 personnes, essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées qui avaient fui Mutanda et Walenda le jeudi 7 septembre ont pu rejoindre leur village grâce aux opérations vigoureuses qui ont été menées par la MONUSCO avec les forces de sécurité et de défense congolaises à Kiwanja. Ces opérations ont permis de libérer 10 personnes, dont 4 femmes, enlevées dans le territoire de Rutshuru. La MONUSCO a continué à déployer des troupes sur l'ensemble de ces régions et à maintenir sa présence dans les localités de Kamandi, Ishasha et Lubero, dans le but de dissuader ces groupes armés d'attaquer et d'assurer la protection de la population civile suite à la fermeture des bases dans certaines de ces localités. Par ailleurs, le déploiement accru de patrouilles pédestres motorisées et par hélicoptère de jour et de nuit, fondé sur le concept de la mobilité et la flexibilité des interventions militaires de la force de la MONUSCO, permet de maintenir une forte pression contre ces éléments négatifs afin de les forcer à abandonner leurs activités criminelles et illégales et à se rendre volontairement. Enfin, la MONUSCO et les forces de sécurité et de défense congolaises poursuivent sans relâche leurs opérations dans toutes ces provinces affectées par la violence pour contrer ces activités négatives et protéger la population civile. Je vous remercie.
Merci beaucoup, colonel. Nous allons passer la parole maintenant à José María Aranaz, qui va nous faire le point sur la situation des droits de l'homme pendant le mois écoulé. S'il vous plaît.
Merci beaucoup Fabienne et merci beaucoup chers collègues de la presse et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Comme c'est de manière régulière, notre bureau va présenter les chiffres de la situation des droits humains à la RDC enregistrés dans les mois d'août. Dans les mois passés, notre bureau a enregistré 441 violations documentées dans les territoires de la RDC, qui représentent une hausse par rapport au mois de juillet, une augmentation importante. Les principaux types de violations documentées sont les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, les droits à l'intégrité physique. Les agents étatiques, ça veut dire la PNC, la FRDC et la ENR, étaient responsables de la majorité des violations des droits humains. 64% des violations ont été commises par les agents étatiques et 36% par les groupes armés tout confondu. 54 personnes ont été victimes des exécutions sommaires et extrajudiciaires par les agents étatiques, que c'est un chiffre préoccupant. Les groupes armés, tout confondu, ont été responsables de 159 violations dans les territoires affectés par les conflits. Nous avons enregistré une forte augmentation des civils tués par les groupes armés, 110 victimes. Dans le cadre de violences sexuelles, 68 adultes, dont 15 hommes, ont été victimes et 6 filles victimes de violences sexuelles liées au conflit. Par rapport à la répression des droits civils et politiques, des libertés fondamentales et d'espace démocratique, notre bureau a enregistré une forte augmentation de ce type de violations, 106 dans le mois d'août, et ça, le bilan total depuis janvier 2015, c'est 1958 violations des droits et libertés fondamentales. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, que nous saluons et appuyons les efforts des autorités, 12 militaires de l'FRDC et 5 agents de la PNC ont été condamnés pour les actes constitutifs de violation des droits humains. Et dans le mois d'août, notre bureau a organisé un 20e d'activités de renforcement des capacités, bien de la société civile ou de notre partenaire gouvernemental. C'est tout. Merci.
Merci, Rosemaria. Vous pourrez poser vos questions après que nous ayons fait le point avec Florence Marchal sur les informations de l'équipe pays des Nations Unies.
Merci. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous. La première information de ce jour concerne les Centrafricains qui ont trouvé refuge dans le nord de la République démocratique du Congo après avoir fui les groupes armés qui sévissent dans leur pays. Leur nombre ne cesse d'augmenter et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils étaient 167 000 fin août, dont 64 000 ayant fui la Centrafrique depuis la mi-mai. Ces données sont indicatives car d'une part la Commission nationale pour les réfugiés poursuit l'enregistrement des réfugiés et d'autre part le nombre de ces réfugiés pourrait être bien plus élevé car des milliers de personnes se trouveraient dans des zones éloignées et souvent inaccessibles dans les provinces du Nord Ubangi et du Bas-Ouélé. Alors depuis août, le HCR fournit de l'aide à plus de 20 000 de ces nouveaux arrivés en distribuant des articles ménagers. Alors, outre cette assistance individuelle, le HCR a prévu de soutenir certaines communautés d'accueil en infrastructures communautaires. En effet, lors de missions menées par le HCR, il a été constaté que désormais, dans certains villages, le nombre de réfugiés nouvellement arrivés dépasse celui des habitants congolais, et cela dans des zones où les postes de santé ou encore les points d'eau sont rares, voire inexistants. Plus de 3 000 ménagers placés sans abri, les infrastructures de santé détruites, 4 morts, 23 blessés, tel est le lourd bilan d'un incendie accidentel survenu samedi dernier sur le site spontané de déplacés de Kalonda. Depuis le mois d'avril, au moins 5 sites spontanés de Kalimi ont connu des incendies, ce qui, bien évidemment, complique la situation sur place. L'Association des jeunes pour le développement communautaire, une ONG congolaise contractée par le Programme alimentaire mondial, a commencé ce lundi à distribuer des vivres aux victimes du glissement de terrain de Tara. Cette assistance est destinée à environ 2000 personnes et elle représente une ration complète d'un mois. 5 tonnes de non-vivres et autres articles seront également remises prochainement à ces mêmes bénéficiaires. En réponse à une question posée la semaine dernière sur la rentrée des classes au Nord Kivu, le manque de fournitures scolaires et le non-respect du calendrier scolaire, l'UNICEF nous indique que l'absence de fournitures scolaires ne peut pas être un motif de non-fonctionnement des écoles. Certes, l'UNICEF distribue des kits scolaires, mais cet appui ne concerne qu'une partie des élèves inscrits en première année. Pour cette année scolaire 2017-2018, l'UNICEF en province a préféré mettre l'accent sur la mobilisation sociale pour l'inscription, justement en première année, et la formation des enseignants. Quant au respect du calendrier scolaire, il relève du suivi des services de l'éducation primaire, secondaire et professionnelle. L'UNICEF, en tant que partenaire de cette institution, mène des actions de sensibilisation et effectue un plaidoyer pour l'effectivité de la scolarisation pour tous les enfants, même en situation d'urgence. Et puis, enfin, avant de passer la parole sur ce sujet à nos invités dans la session des questions et réponses de cette conférence, je vous rappelle que 20 des 26 provinces de la RDC sont désormais touchées par l'épidémie de choléra. Avec un risque de propagation qui demeure encore très élevé vers la région du Grand Kasaï, où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent la vulnérabilité face à cette épidémie. L'arrivée imminente de la saison des pluies est un autre facteur aggravant. Alors, à la date du 11 septembre, les autorités de l'RDC avaient recensé un total cumulé de 26 120 cas suspects avec 547 décès, ce qui représente une hausse des cas de près de 30% par rapport à la même période en 2016. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, le ministère de la Santé publique a mis en place un programme d'urgence. Il est accompagné dans cette lutte par deux acteurs des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Outre un rôle de conseil, l'OMS vient de débloquer 400 000 dollars américains pour le déploiement d'équipes techniques dans les zones prioritaires. Elle a également prévu la mise à disposition de produits pharmaceutiques. L'UNICEF intervient dans le domaine de l'eau, assainissement et hygiène. Il s'agit par exemple de la mise en place de points de chloration et de points de lavage des mains.
Merci beaucoup Florence. Maintenant, après...